voilà, je crois que j'ai.
Mais vous avez dû la faire, votre place? Vous avez dû vous battre auprès de vos frères?
Non, je crois que ça a été assez naturel, justement. Donc, j'ai été élevée comme eux. J'étais, alors, en même temps, j'avais ce côté très physique, très sportive, très. Donc, j'étais bien avec les garçons. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça.
Et votre frère, parce que c'est pas anodin d'avoir un frère jumeau.
Eh oui.
Vous en parlez pas énormément dans votre livre de Benoît. Ben,
un frère jumeau, c'est deux entités différentes. On a été élevés ensemble et tout. Au début, on a partagé le temps des biberons. Enfin, lui, il buvait vite et moi, un peu plus lentement. Peut-être pour garder ma mère un peu plus longtemps. Mais voilà, je crois qu'après, on a eu deux parcours. On est très différents. Lui, il est polytechnicien, c'est un ingénieur. Aussi lent que moi, je suis rapide. Excuse-moi, Benoît. Mais voilà, on est assez différents. Et puis, par contre, c'est avec lui vraiment que j'ai commencé à grimper. Je suis allée à Fontainebleau. Il a été élevé chez les Jésuites à Saint-Louis-de-Gonzague, à Paris, après l'Italie. Et c'est vraiment avec lui que j'ai commencé à grimper. On sortait ensemble avec ses potes et tout. Voilà, donc c'est un lien fort. En même temps, voilà, on est différents. On n'habite pas ensemble, quoi. Voilà.
Vous avez toujours été attirée par le sport, Christine Janin? Vous avez toujours été une sportive?
Oui, je pense que dès 3 ans, j'étais sur les skis. Mes parents aimaient la nature. Mes parents aimaient le sport, aimaient la nature, aimaient le grand air. C'était soit en Bretagne, et mon père n'aimait pas du tout la Bretagne. Donc, il nous a emmenés à la montagne. Et tout de suite, voilà, j'étais la première en sport, en gym à l'école. Le ski, j'étais tout de suite devant, derrière le moniteur. Et voilà, donc j'aimais ça. Et je crois que j'ai pu m'exprimer là-dedans, mais sans difficulté en plus.
Vous dites, j'étais la première. On sent que vous avez besoin de ça, d'être la première.
C'est
de,
plus drôle.
Des défis. Ça vient d'où, ça, ce côté d'avoir besoin d'être la première?
Je ne sais pas si j'avais besoin, mais voilà, moi, quand je joue, j'ai envie d'être la première. Et à l'école,
première femme en haut de l'Everest, première femme à faire
le tour du monde, première au pôle Nord et tout.
Tous les sommets, les plus hauts sommets. Toujours la première.
Les portes m'ont permis ça, parce que j'aurais été la seconde. Ben là, j'étais la première femme française à 8000 mètres. Quand j'avais 24 ans, mon premier sommet. Mais je ne savais pas que je serais la première. Et tout de suite. Et c'est vrai qu'il y a un côté amusant, parce que j'ai eu l'occasion d'être la première à l'Everest, mais peut-être qu'il y en aurait eu d'autres, j'aurais été la deuxième. Mais voilà, d'être la première.
Vous n'avez pas recherché à être la première?
Non. Après, on était 13 femmes en compétition. Voilà, mais je n'étais pas à tout prix. Moi, j'avais un métier, etc. Le Pôle Nord, si. Le Pôle Nord, je me dis, tiens, il y a un truc à faire, je peux être la première. Ça m'amusait.
Alors,
j'étais compétitrice de toute façon.
La première femme à avoir atteint le Pôle Nord, sans moyen technique, ni chien de traîneau.
Au monde, ouais. Alors que les gens l'oublient, le Pôle Nord. Le Pôle Nord, c'est quelque chose de c'est une grande méditation.
On en reparlera tout à l'heure du Pôle Nord. Vous avez hésité entre le métier de médecin, parce que vous êtes, je devrais vous appeler docteur, Christine Janin, vous êtes médecin. Vous avez hésité entre le métier de médecin et celui de prof de gym.
Parce que j'adorais le sport, parce que j'étais, même quand j'ai passé le bac, j'ai eu 22 sur 20 en gym, le prof de sport qui me faisait passer me dit, tu fais quoi après, plus tard? J'ai dit, médecine. Il me dit, ah non. J'aimais le sport, mais heureusement, ma mère m'a, alors j'ai toujours à 8 ans, je voulais soigner. À 8 ans, je voulais être docteur. Après, le sport a été quand même un guide, j'allais dire, toute ma vie. J'aimais ça. Je m'étais dit, prof de sport, c'est chouette parce que je vais faire plein de sports, ce qui aurait été idiot parce que je ne crois pas. Et ma mère m'a, heureusement, m'a bien guidée là, en faisant comprendre que ce serait mieux de faire médecine. Et je la remercie encore. Et la médecine m'a tout permis.
Et ça vous aide encore aujourd'hui?
Bien sûr.
Dans la vie que vous menez ici, dans ce chalet?
J'aime soigner. Ici, ce que je fais, c'est soigner. La médecine m'a permis de partir en expédition, de réussir, de transformer. La médecine est toute ma vie et je voudrais revenir beaucoup plus au cœur de ce métier.
Christine Janin, c'est en 1981, à l'âge de 24 ans, que vous avez fait votre premier 8000. Vous avez été, on l'a dit tout à l'heure, la première femme à dépasser le cap des 8000. Vous étiez au Gacherboom 2, donc là on
Pakistan.
Est au Pakistan. Vous avez été médecin de l'expédition. Donc a priori, vous ne pensiez pas monter jusque là-haut? C'était pas programmé?
Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par intuition, par ça résonne. J'étais dans un groupe d'amis, on grimpait à Fontainebleau, dans les falaises du Saussois, etc. Philippe Mailloux, qui était avec moi, qui était aussi étudiant en médecine, qui lui passait l'internat, on lui avait proposé à lui. Et malheureusement, lui passait l'internat. Moi, j'avais compris que je n'avais pas le temps de passer l'internat, que c'était trop de travail, que j'avais envie de me balader plus. Il me l'a proposé et j'ai dit oui. J'étais en sixième année de médecine, donc je ne connaissais rien en médecine. Je n'avais pas fait le Mont-Blanc. J'ai dit oui parce que pour moi, les expéditions, c'était aussi le voyage, voyage utile. Je savais qu'il y avait un objectif. Je n'aimais pas voyager pour visiter et tout. Mais là, il y avait un objectif. J'aimais cette idée de
d'accompagner une expédition.
D'accompagner ou d'aller vers un objectif. Et puis en même temps, je savais que sur toutes ces marches d'approche, j'allais rencontrer des populations. Donc j'aimais ce côté médecin. Médecin pour aider les populations. Alors, on ne peut pas faire grand-chose, mais au moins, on va aller voir. C'est de l'attention.
Mais ils viennent souvent vers vous aussi. Ils savent qu'il y a un médecin dans l'expédition, ils viennent se faire soigner.
On
ne
peut pas faire grand-chose, mais j'aimais ce côté voyage utile.
Mais alors, Christine Jeannin, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce que quand on lit tout votre parcours, on a l'impression que beaucoup de choses sont arrivées comme cela, sans que vous le recherchiez. Et vous écrivez dans votre nouveau livre, « Rien ne m'est arrivé par hasard ». Je suis convaincu que tout ce qui survient dans nos existences est le résultat de nos pensées, de nos intentions. Le hasard est le pseudonyme du divin qui ne dit pas son nom, la coïncidence, un événement miraculeux créé par le divin.
Oh, j'ai écrit tout ça. Je voulais remercier Anne-Véronique Elbaz qui a retranscrit toutes mes pensées, avec qui on a écrit ce livre. Mais je ne crois pas au hasard, je crois qu'il y a des choses qui nous arrivent, qui sont à écouter, à entendre, à prendre, et qui vont nous emmener sur le chemin. J'ai eu envie, à travers ce livre, de partager un chemin de vie où les choses sont arrivées. Après, il y a une façon de dire oui, de prendre, d'entendre et d'y aller, ou pas. Moi, j'ai une femme qui est venue ici, qui s'appelle Sylvie. Dès le premier jour, elle m'a dit « Attends, mais toi, tu as dit oui à tout. » Et elle signe en partant « Oui, vie ».
Il faut dire que c'est une femme qui avait le cancer.
Qui a eu un cancer et tout, et qui me disait ici, même, je ne savais même pas si j'avais envie de dire oui à la guérison. Et elle me dit, là maintenant, j'écris oui, vie, parce que voilà, c'était très joli. J'ai jamais trop réfléchi dans mes actions, parce que sinon, si on réfléchit trop, je crois qu'on n'y va pas. J'ai toujours réagi par mon intuition. L'intuition, elle est très forte. L'intuition, c'est le cœur.
Il faut l'écouter, son intuition, c'est
toujours
important.
Elle a toujours raison. Toujours. Dès qu'on met en doute l'intuition et qu'on va faire différemment, chaque fois, vous dites « Ah non, mais j'avais pensé que, je savais que... » Et puis, la vie, elle vous emmène. Après, quand ça ne fait pas, j'ai compris aussi une chose, qu'il faut être dans l'évidence. Les choses simples, dans l'évidence, dans l'authenticité, ça se fait. Il y a des fois, il faut chercher. Des fois, on va se heurter. Et quand on lâche prise, hop, les portes s'ouvrent et on est guidé vers le bon chemin.
Et ça, vous voyez un parallèle avec l'ascension en montagne, avec l'escalade, avec ce
Bien
que
sûr.
Vous avez vécu.
L'ascension, je crois que j'ai... D'abord, moi, quand j'ai fait mes ascensions, j'ai toujours fait par passion. Je n'ai jamais cherché à être la première. Alors, j'aimais bien être la première parce que j'étais une compétitrice. J'ai fait beaucoup de ski, alpinisme, j'ai couru, j'adorais ça. Mais pour me dépasser, puis ça me donne un objectif, ça me faisait rire, mais sans en mettre plus d'objectifs que ça. Et par contre, la montagne, je crois qu'il faut savoir... J'ai réussi l'Everest aussi sur une chose, c'est qu'il faut savoir reculer. Il y a un moment, quand on sent qu'on est fatigué, tout, il faut marcher en pleine conscience de son souffle, de sa respiration, de sa tête. Il ne faut pas regarder où sont les autres en disant « eux, ils sont devant » et tout. Et savoir s'écouter, savoir être très humble par rapport à la montagne, elle a toujours raison. Il faut savoir la respecter, il ne faut pas savoir faire du bras de fer absolument. Et puis à partir de là, si on avance tranquillement, tout, les choses se font ou pas. Et c'est le pas est important parce que ce n'est pas obligé d'aller là-haut.
Christine Jeannin, en 1990, vous êtes la première Française sur le toit du monde, sur l'Everest. Quand on vous lit, on a l'impression que vous avez vécu cette ascension dans un état de grâce, entre guillemets. Pour ceux qui connaissent la montagne, la haute montagne, vous êtes parti du camp de base à 5000 mètres d'altitude pour arriver au sommet à 8848 mètres en 34 heures. Ce qu'on fait normalement en 4 jours, vous l'avez fait en 34 heures. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là ?
D'abord, je suis partie à l'Everest, et j'aime bien le dire, libre d'échouer. C'était pas une obligation d'aller là-haut. J'avais cette volonté, j'avais cette envie, mais pas n'importe comment. Je savais qu'après, j'avais mon métier qui m'attendait. Donc, je m'étais dit, c'est la dernière expédition. Après, je fais de la médecine. Mais il y avait quand même 13 femmes en compétition. Je me suis dit, quand même, je suis
seule. On retrouve le challenge.
On retrouve le challenge. Et puis après, il y a eu un moment, j'étais fatiguée. Les bronches, il faut savoir que l'air est très froid, très sec et tout. J'avais les bronches complètement brûlées. Je suis redescendue un peu plus bas, 4800. Il y avait un petit camp de chercheurs. Je me suis reposée, j'ai mangé des spaghettis une journée. Je suis montée. Mon équipe était à 6002 avec Pascal Tournaire, avec qui après on a enchaîné. Je les ai rejoints. Et j'ai senti ce jour que j'étais sublimée. C'était facile. Il y a des fois, quand on court, on a les jambes lourdes ou alors on vole. Là, je volais. Et j'ai senti, je ne sais pas, comme une... C'était le bon jour. Je crois que dans la vie, c'est important. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, le bon jour. Aller chercher la petite étoile, mais la petite étoile, elle est là quand on est au bon endroit. Et c'était facile, sans forcer. Le lendemain, donc je suis montée jusqu'à 7000. Le lendemain, on est parti de 7000. On est parti à 1h du matin. On marche à 3h. On est arrivé au camp 4, au col sud, 8000 mètres. Le fameux passage où après, on s'engage vraiment et c'est
le
chacun pour soi.
Le passage Hillary qui est
voilà,
très
après,
difficile.
C'est le passage Hillary qui est encore plus haut. Et avec Pascal, Marc Bâtard, qui était le chef d'expé, voulait continuer. Pascal Tournaire dit, moi, je continue avec les photos, tu viens avec moi. Je dis, OK. Là, j'ai trouvé une bouteille d'oxygène. J'étais assez contente. J'ai trouvé une petite bouteille légère et tout, qui surtout humidifie et réchauffe l'air. Pour moi, ça a été vraiment ce réconfort. Et après... Pareil, je me suis dit, bon, ok, on y va. Je me suis posé la question, est-ce que tu y vas, tu t'engages, tu mets ta vie en jeu, ou alors est-ce que tu fais demi-tour et tu ne l'as pas fait. Je me suis dit, j'y vais. À partir du moment où j'y vais, je crois que c'est aussi ça qui est important, c'est de se dire, je ne me pose plus de questions. Je ne suis pas suicidaire, la météo était hyper calme, je le sentais bien. On est arrivé à 5h du soir là-haut, donc c'était un tout petit peu limite au coucher du soleil. Mais à partir de là, c'était au début 10 pas, puis après c'est 5 pas. Et on est en pleine conscience de son souffle, de son corps, on ne se pose plus de questions. Et je regardais Pascal, il allait bien, moi j'allais bien. Voilà. Et puis on monte. Et on est porté vers ce sommet, on ne sait pas très bien... mais j'étais calme, j'étais sereine, j'étais en paix.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivée au sommet, Christine Jeannin ?
Alors, quand on arrive au sommet, d'abord, il faut comprendre qu'il y a le passage Hillary, après, il y a une bosse, deux bosses, donc il y a toujours une bosse derrière. Et tout d'un coup, quand on est arrivé, j'ai eu un grand moment de doute et de peur en me disant, non, t'as pas gagné là. Je n'ai pas sauté au plafond, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que... Je suis complètement folle, il faut tout redescendre. Donc, il y a un moment de... On a à peine le temps de savourer ce truc énorme qui vous arrive, que là, vous prenez conscience que ce n'est pas fini.
Qu'il faut faire la redescente.
Et il y a la redescente. Et là, c'est casse-gueule. Parce que vous avez marché donc depuis 15 heures, qu'il fait moins 40, moins 50, moins 60, je ne sais rien, qu'il va faire nuit, que vous êtes quand même qu'il y a 10% d'oxygène. Et là, je me dis, Jeannin, tu fais chaque pas, tu fais une concentration maximale, tu ne te casses pas la figure, tu es de le contrôle, 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 et on criera victoire plus bas.
Après, donc, on s'est arrêté. Il n'y a pas de jubilation
non.
au sommet, il n'y a pas
moi,
de
non.
je me pose, je regarde le paysage autour, c'est unique.
J'ai réalisé que j'étais dans quelque chose d'extrême, que là, il fallait, qu'il n'y avait pas le droit à l'erreur. Par contre, à 8005, on s'est arrêté avec Pascal, pleine lune, on était au-dessus du col sud, on s'est dit, youpi, on a gagné. Sauf qu'il fait quand même moins 40 ou je ne sais pas combien, et que ce n'est pas fini, il faut encore redescendre. Donc on s'est juste dit, on a eu ce moment de savoir, et on a juste envie de le partager. On est seul et on aimerait tellement partager ce moment que je sais qu'il va changer ma vie, en plus.
Et la joie de la victoire, alors, vous l'avez vécue quand, vraiment ?
Alors après, c'est compliqué parce que moi, je suis restée la même, je suis restée Christine, je fais l'Everest, ok, c'était mon objectif, j'avais envie, mais je n'ai pas mis l'Everest à un niveau où les gens le mettent. Et après, ça a été compliqué de redescendre parce que d'abord, on rencontre ceux qui vont monter, qui essayent de le faire, et puis vous l'avez fait, donc ils ont un petit peu les boules. Et on est un peu gênés parce que quelque part, ben, pourquoi moi, pourquoi pas elle. Donc j'ai eu un sentiment très bizarre de ne pas vouloir trop... En même temps, j'étais fière de moi. Et puis en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre quoi, par rapport aux autres.
Et la notoriété ? Parce que la notoriété vous est tombée dessus après cette victoire. Comment vous l'avez vécu ?
Oui et non. Un petit peu. Moi, j'étais quand même dans un milieu où on avait parlé de moi un peu pour mon premier 8000, etc. Après, ce n'est pas comme en bateau. La même année, Florence Artaud réussissait la route du Rhum. Donc là, il y a les télés, machin. Nous, il n'y a personne, il n'y a pas de télé, machin. J'ai eu quelques articles après, j'ai eu deux, trois trucs. Mais...
Ça n'a pas changé votre vie.
Non, ça n'a pas changé ma vie. Le seul truc, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce truc énorme qui m'est arrivé ? Comment j'avance ? Et tout le monde vous pose la question maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de plus haut, de plus difficile ? Et là, il y a une espèce de grand vide, comme les enfants, les femmes qui ont atteint leur Everest en ayant vaincu leur cancer. C'est un peu ce vide.
Visage, Thierry Lyonnais.
Christine Janin, après cette victoire de l'Everest, vous avez enchaîné. Et alors, c'est ça que j'aimerais savoir. Vous avez vécu ce qu'on appelle l'ascension des Seven Summits. Je veux dire en anglais, les sept sommets, les plus hauts sommets de chaque continent. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Est-ce qu'on est obligé, après une telle victoire, celle de l'Everest, de toujours chercher à aller plus haut, plus loin et en faire plus?
Alors justement, l'idée, c'était... Qu'est-ce que je fais de ce truc énorme de l'Everest? Comment j'avance dans ma vie? Mon mari, à l'époque, j'étais mariée, pensait que j'allais rester à la maison faire des gamins et tout. J'ai compris que ce n'était pas ma vie. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de cette liberté. J'avais besoin de vivre des choses un peu extraordinaires. Je me nourrissais de ça. J'en avais besoin. Et j'ai entendu parler. Mais par contre, j'avais compris que je n'allais pas enchaîner les 8000, que ce n'était pas ma vie, que c'était trop de risques, ça ne m'apportait plus rien. Que j'avais fait ce que j'avais à faire. Par contre, j'ai entendu parler des Seven Summits et je me suis dit, tiens, là, c'est chouette parce que c'est un tour du monde. Moi, j'adorais les voyages. Il y a un objectif chaque fois. Je vais aller chez les Papous, je vais aller en Antarctique, je vais aller dans des trucs assez magiques, le McKinley, le Kilimanjaro, je l'avais déjà fait, etc. L'Elbrouz. Et ça m'a permis à la fois de quitter le monde de l'extrême, puisque c'était des sommets que entre 5000 et 7000, d'aller à la rencontre de populations comme les Papous, d'aller en Antarctique dans des trucs assez magiques qu'on ne peut pas faire comme ça, et puis de redescendre et de, j'allais dire, de pouvoir partager différemment.
Mais Christine Janin, est-ce que ce n'est pas une drogue quelque part?
Oui, on est complètement shooté. On est addict.
Mais addict de quoi? Qu'est-ce qu'on recherche comme sensation?
On est addict, c'est un mode de vie. Moi, j'ai compris avec du recul. Pendant les expéditions, la vie, elle est simple. Bon, on se gèle un petit peu les fesses. Mais vous levez, vous marchez, vous grimpez, vous mangez. Le soir, vous posez la tente. Vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de fax, en tout cas à l'époque, pas de téléphone, pas de fax, tout, la vie elle est simple. C'est une espèce de survie peut-être, mais je vivais l'instant présent sans trop en avoir la conscience. Parce que vous êtes concentré sur votre pas, sur votre souffle, sur l'objectif, sur le risque, mais finalement c'est assez simple.
Plus simple que de chercher les sponsors,
qu'une vie un peu folle. Là-bas, le mental, il est assez au repos en fait. Finalement, j'ai compris que c'était ça. Après, on a un mode de vie qui est facile, parce que ma vie, je n'avais pas compris ça, mais je ne comprenais pas les gens qui me parlent de vacances, mais moi, ma vie, c'était des vacances. Je rentrais, je repartais, j'avais une vie assez de grand air, de sport.
Oui, mais Christine Janin, il y a toujours une part de danger, de risque aussi. Vous n'aviez pas peur de l'ascension de trop, celle qui a tué tellement de vos confrères alpinistes?
Pendant que j'y étais, non, on n'a pas peur de ça. Par contre, pendant le tour du monde, j'ai compris, j'ai pris conscience, entre autres avec Bernard Jamin, qui est un grand philosophe, qui était le réalisateur de tout, qui a fait toutes les images de mon tour du monde et qui a fait les images de l'Everest, qui était avec moi. J'ai pu échanger et me demander, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi tout ça? Pourquoi je continue à marcher? Et c'est amusant parce que le corps y parle. Ma mère était tombée malade d'une leucémie à ce moment-là, donc les choses commençaient à bouger. Je suis allée pendant ce tour du monde, on m'a demandé d'aller rencontrer les enfants à l'hôpital. Donc tout d'un coup, j'avais pris conscience qu'il fallait faire quelque chose d'utile, que ça ne me suffisait pas de grimper et tout. Et le corps a parlé, puisque je suis la plus haute phlébite du monde. À la fin du tour du monde, voilà, le corps lui-même parlait, disait stop. Mais je l'ai entendu.
Christine Janin, vous nous le disiez en commençant cet entretien, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a eu une rencontre qui a été un grand tournant dans votre vie, c'est celle d'Hélène Voisin, directrice de l'hôpital Trousseau à Paris. C'est elle qui vous a fait rencontrer les enfants pour la première fois. On peut dire qu'elle est à l'origine de ce déclic qui va changer votre vie et qui va nous conduire là où nous sommes, dans ce chalet à Chamonix de l'association À Chacun Son Everest.
La vie, c'est des rencontres, c'est osé, mais c'est beaucoup de rencontres. Hélène Voisin est la directrice de l'école de l'hôpital Trousseau à Paris. Et elle est venue chercher pendant le tour du monde, au début, parce que j'avais un partenariat, entre autres, avec la ville de Paris, qui m'avait demandé de faire des conférences, un peu comme faisait Jean-Louis Etienne à l'époque, dans des écoles. Mmh. Et elle était directrice de l'école, elle m'a dit, moi, je vous veux à l'hôpital, en plus du reste. J'ai dit, oui, madame.
Vous les racontez aux enfants, quoi. Venez,
voilà, j'allais partager aux enfants mes aventures, j'allais les faire rêver. Je ramenais après le rêve, j'échangeais avec eux, et elle travaillait autour. Elle travaillait autour des images, elle travaillait... Donc, on faisait quelque part... sortir les enfants de l'hôpital, mais en même temps, on utilisait toutes ces images pour les faire exprimer, écrire. Et elle a continué à créer son association Si on rêvait, à partir de belles images où les enfants peuvent exprimer, font des poèmes, écrivent et sortent quelque part de l'hôpital à travers nos images et nos rêves.
Je sais qu'il y a eu une rencontre avec le petit Michael qui vous a profondément touché. Vous pouvez nous raconter?
Il y a beaucoup de rencontres. Tous ces enfants, je les garde dans mon cœur. Il y a eu Jérémy, il y a eu Michael. J'allais le voir donc depuis 2-3 ans avant de commencer les séjours, puisque j'allais régulièrement dans...
Des enfants qui avaient le cancer,
auprès du cancer. J'allais donc à l'hôpital Trousseau et après à l'hôpital Saint-Louis dans le service de professeur Baruchel. Et j'allais voir ses enfants. Puis un jour, je lui dis, Michael, t'aimerais venir à la montagne avec moi? Il prend le téléphone. Allô, maman, je pars à la montagne avec Christine. Je n'avais aucune envie de faire une association. Mais avec le professeur André Baruchel, qui m'a suivi dans tout ça, qui a accompagné tout ce cheminement. Là aussi, ça a été une très belle rencontre. Qui a cru en ce message de l'après-cancer, de l'après-Everest. On s'est dit... C'est bien d'aller voir les enfants à l'hôpital, et si on les emmenait à la montagne? Et à partir de là, tout a commencé comme ça. Mais je pensais accompagner ceux que je voyais régulièrement au début. Je n'avais aucune idée, ni aucune envie de continuer. Et puis voilà, la vie m'a emmenée.
Vous écrivez, Christine Janin, « Les enfants ont été mes guides. Je pense qu'ils m'ont sauvé de l'addiction au sommet. » C'est vrai? Ils vous ont vraiment sauvé du risque de faire toujours plus?
Oui, parce que, bien sûr, après ce tour du monde où je commençais à me poser des questions, où j'allais voir ces enfants à l'hôpital, ces enfants ont donné du sens à ce tour du monde, à mes expéditions. Puis quand j'ai terminé ce tour du monde, ben c'est eux finalement qui m'ont fait du bien, parce que j'ai continué à aller les voir, puis parce que je ne savais plus très bien quoi faire, dans où aller. Et puis en même temps, quand on a commencé les premiers séjours, que vous recevez un message de la petite Nora, qui a maintenant plus de 30 ans, et qui m'avait écrit « Tu m'as aidé à retrouver le chemin de la guérison, je croyais que des enfants malades, on ne pouvait plus rien faire, tu nous as prouvé le contraire », j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire, que de mon Everest, je pouvais en faire plein d'Everest. Je ne savais pas comment au début, j'y suis allée quand même une fois de plus à l'intuition, je n'avais jamais fait de colo, j'avais horreur de ça, je n'avais jamais eu le BAFA, je ne savais même pas ce que c'était tout ça, mais... Voilà, j'ai osé faire quelque chose qui à l'époque ne se faisait pas, c'était de sortir des enfants, pas tout à fait de l'hôpital, ils étaient chez eux, mais encore en traitement, de les emmener loin des parents, loin de l'hôpital, pour tout simplement les aider à reprendre confiance en eux et changer ce regard qu'ils avaient sur eux, de l'enfant malade, en faire des enfants conquérants. Et ça m'a sauvée parce que ça a donné, tout d'un coup, j'avais quelque chose d'autre à faire, ça a pris beaucoup de mon temps, donc c'est vrai quand on est addict et tout, qu'on veut enchaîner les expés, de bosser, on a un petit peu moins de temps pour rêver de partir.
Christine Janin, nous poursuivons sur RCF cette rencontre avec vous aujourd'hui dans l'émission Visage. Vous avez eu la gentillesse de m'accueillir à Chamonix, dans ce grand chalet de l'association À Chacun Son Everest, que vous avez créé en 1994 pour organiser des stages d'une semaine, d'abord pour les enfants malades du cancer, et puis aujourd'hui aussi pour des adultes, et notamment des femmes qui ont eu un cancer du sein. Alors j'aimerais qu'on parle de ce que vous vivez ici, dans cette maison. Là, on est dans le coin salon, salle à manger de l'association. Comment vous transmettez le message que vous avez reçu en faisant l'ascension de l'Everest? Vous accueillez ces enfants ou ces femmes qui viennent ici. Forcément, elles vous connaissent comme alpinistes. Comment vous transmettez ce message que l'Everest vous a enseigné?
Alors déjà, je voulais dire que j'avais accompagné 4300 enfants, plus de 800 femmes. Et chaque fois, c'est la magie. Chaque fois, il se passe quelque chose d'un Everest. Quand elles arrivent, déjà, elles sont accueillies dans cette maison magnifique, qui était la maison de Joseph Vallot, qui est une maison de 1200 m2. On a 6000 m2 de terrain, on a une salle d'escalade, une salle zen, le parc aventure face au Mont Blanc. Déjà, le lieu, c'est une belle maison, quoi.
C'est beau, et vous l'avez voulu belle et chaleureuse.
Et c'est cocooning, voilà. Donc déjà, elles sont là, ils sont déjà émus du lieu. Ils sont accueillis. Il y a de l'attention, les petits cadeaux dans les chambres, tout. Voilà, c'est des princesses.
De la couleur dans les chambres aussi.
De la couleur, c'est pas un truc triste, c'est tout, c'est beau, c'est propre. Toujours, les gens sont étonnés en disant, mais c'est coloré, c'est propre. Mais bien évidemment, c'est pas parce qu'on est une association que ça doit être laid et moche. Au contraire, je pense qu'ils ont besoin, je crois que l'attention déjà, c'est je suis considérée dans ma problématique, dans ma douleur, dans mes peurs, etc.
Ce sont des gens qui sont encore malades du cancer, qui sont en rémission.
J'ai de tout, j'ai des enfants qui sont guéris, des enfants qui sont encore en traitement, des femmes qui sont en rémission à la fin de tous les gros traitements. Voilà, donc c'est dans leur chemin, dans cette redescente du sommet de la guérison. Et après, je les accueille dans un joli salon rouge avec un cheminée, etc. L'hiver avec le feu de cheminée. Et je vais leur parler de mon Everest. Je vais leur parler de comment on arrive là-haut et tout. Et je vais leur demander d'énumérer les qualités intrinsèques qu'il faut pour atteindre des choses extraordinaires. C'est le courage, c'est la persévérance, c'est la confiance, c'est les peurs, c'est le plaisir, c'est l'envie.
C'est eux qui le disent.
Qui vont énumérer ça. Toutes ces qualités qu'il faut pour avoir envie, pour aller jusqu'au bout, pour se battre, pour avoir peur, pour se dépasser. Et tout d'un coup, je les regarde, je dis, ça vous rappelle un chemin? C'est soit des larmes, soit un joli sourire en disant oui, le nôtre. Je dis voilà, ici vous êtes là parce que vous avez réalisé quelque chose d'énorme dont on va parler toute la semaine, qui est un Everest.
Votre Everest, c'est votre maladie.
Votre Everest, bien sûr. Et vous avez été jusqu'au sommet, c'est la guérison, j'allais dire. Vous avez subi tout ce chemin et vous y avez été avec toutes ces qualités, toute cette force en vous. Sauf que maintenant vous êtes au sommet et là maintenant c'est le vide. C'est comme moi après l'Everest, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et là, maintenant, il y a toutes les peurs qui reviennent, etc. Vous êtes perdu. Où est-ce que je vais? Comment je vais vivre tout ça?
Comment redescendre?
Comment redescendre? Et c'est la montée, elles ont eu ce courage. Ils ne se posent pas de questions. Ils n'ont pas le choix. Il faut y aller. On a envie de réussir. On a envie d'atteindre le sommet. Donc, elles vont tout donner. Et après, c'est tout d'un coup, c'est... Mon Dieu, j'ai réalisé un truc d'énorme. C'est les aider à vivre avec. Ça ne sera plus comme avant. Par contre, le avec, quand on peut le transformer, quand on a compris... qu'on en fait quelque chose, ça vous rend encore plus fort. Et maintenant, vous savez que la vie, il n'y en a qu'une. Vous savez maintenant qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. En tous les cas, vous allez vite l'apprendre. Et cette Everest va vous donner le droit d'aller là où vous devez aller, où vous voulez aller, encore plus libre, légère et fière de ce que vous avez fait.
Christine Janin, il y a beaucoup de similitudes entre l'ascension en montagne et la maladie.
Oui, alors la grande différence, c'est que moi, je l'ai choisi, pas elle, pas eux. Les enfants et les femmes. Mais en même temps, ça leur donne encore plus le droit, le devoir de réussir quelque part. Et puis après, il y a les peurs, il y a les crevasses, il y a les paliers, il y a le sommeil, il y a la redescente, il y a l'équipe, la cornée, enfin, tout ça.
C'est intéressant, vous faites des parallèles. Par exemple, le médecin, les aides-soignants sont les guides dont on a besoin en montagne.
L'équipe,
l'annonce du diagnostic.
C'est l'avalanche, ça vous tombe sur la gueule. Et puis après, il y a les crevasses, il y a toutes les complications. Puis il y a la cordée, il y a la famille, il y a l'environnement. Beaucoup nous disent, mais j'ai découvert des gens, j'ai fait le tri dans mes relations, mais j'en ai découvert d'autres. Et beaucoup vont jusqu'à la fin dire, mais on a oublié les difficultés et tout. Maintenant, il y en a qui vont jusqu'à dire merci la maladie parce que ça m'ouvre un autre champ de vision. Moi, l'Everest a changé ma vie, ce que je leur dis. Moi, l'Everest, je ne l'ai pas choisi. Ça a été un message, je crois, de l'univers. C'est une mission qu'on m'a envoyée. Des fois, je dis, OK, merci du cadeau. Mais c'est une mission. Je suis sûre, moi, je suis montée là-haut pour faire ça. Il a fallu juste le comprendre, l'apprendre, le transformer pour en faire quelque chose de beaucoup plus beau que l'Everest en soi.
Et Christine Janin, vous pensez que certains cancers sont aussi des messages envoyés de là-haut, comme vous dites?
Bien évidemment.
Qui ont quelque chose à nous dire, pour nous faire grandir? Alors, c'est facile de lire quand on s'en sort.
Elles le disent. Et quand vous comprenez, alors c'est pas, attention, c'est pas à cause d'eux, surtout pas être dans la culpabilité, c'est qu'est-ce que ça vient de me dire? On parle de la maladie, on parle de...
intéressant le jeu de mots, hein.
Bien sûr,
maladie, c'est qu'on
cancer,
a du mal à dire.
Eh oui, ou de la maladie, qu'est-ce que le mal vient me dire? On parle du cancer, qu'est-ce que je vais en faire? Quand est-ce qu'il va me servir? Puis après j'aime bien le mot guérir, gay, c'est-à-dire à partir du moment où on retrouve de la joie de vivre et tout, on va guérir beaucoup mieux. Mais c'est vraiment des messages très puissants. Attention de ne pas être dans la culpabilité. Attention de, mais peut-être que je peux comprendre quelque chose. Il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir de choisir. C'est vrai que votre âme, votre vie vous emmène vivre quelque chose d'énorme parce que quelque part vous pouvez le vivre pour aller encore plus loin et comprendre certaines choses. C'est un peu subtil, mais ça peut aider à guérir.
Christine Janin, vous parlez beaucoup dans votre livre, et puis je pense ici, dans cette maison dans laquelle nous sommes, de reprendre confiance en soi, la confiance en soi. C'est vrai que quand on a été malade du cancer, quand on est une femme qui a subi le cancer du sein, ou un enfant qui arrive et qui a plus de cheveux, qui perd ses amis parce qu'il a plus de cheveux, c'est pas facile de reprendre confiance en soi.
C'est compliqué. Quand vous avez vécu quelque chose aussi difficile que personne ne peut comprendre, aussi, quand ils viennent, j'ai dit, qui peut comprendre l'Everest? Qui peut comprendre ce que vous avez vécu? Que vous, entre vous. Donc vous êtes là parce que vous avez vécu la même chose et du coup, ça va beaucoup plus vite. Et ce que disent les femmes, enfin, je suis comprise. Même les personnes les plus aimantes, les plus compatissantes, les plus proches ne comprennent pas ce que vous vivez, vos peurs, vos angoisses, votre fatigue, vos douleurs. Là, tout d'un coup, elles posent. Et puis après, vous allez pouvoir reprendre confiance à travers les activités physiques, à travers le partage, à travers... Enfin, je ne suis pas seule, mais je suis capable de... Je suis capable de grimper, je vais parler de mes peurs, etc. Et puis tout d'un coup, voilà, vous redressez, quoi. Et les enfants, c'est énorme. Ça va très vite chez les enfants.
Alors, Christine Janin, au début, vous n'avez accueilli que des enfants. Des enfants malades du cancer ou avec une leucémie. Pourquoi ce choix d'abord de vous être occupé uniquement des enfants? Les femmes, on le verra, ne sont arrivées qu'en 2011.
Tout simplement parce que quand je suis allée au service de professeur Leverger à Trousseau avec Madame Voisin, il y avait des enfants cancéreux, atteints de cancer, je trouve ça plus joli, et que ça s'est fait tout simplement naturellement parce qu'il y a un sommet atteint, qu'on les guérit, qu'il y a toutes ces épreuves. Voilà, on ne peut pas aider la terre entière, donc c'est vrai que le cancer, c'était quelque chose de compliqué pour les enfants.
Puis ça semble injuste hein, que des enfants soient atteints
d'un cancer. Et puis surtout, je voudrais insister sur le fait qu'on les guérit de mieux en mieux. 70%, 75%, 80% de certains cancers guérissent. Donc c'est important de parler de sommet, et c'était donc évident, et c'était important de les aider à redescendre.
Mais quand vous accueillez des enfants ici, j'imagine que leurs parents doivent avoir du mal à lâcher, non ? Parce qu'ils ont tendance à surprotéger les enfants malades, les parents. Alors que les enfants qui arrivent ici, coupure pendant une semaine avec leurs parents. Comment c'est vécu ça ?
Alors, ce n'est pas tout à fait coupure, ils téléphonent, etc. Il n'y a pas de souci.
Oui, mais les parents ne les accompagnent pas.
Beaucoup nous disent, vous nous avez permis de nous séparer. Mmh. Beaucoup, c'est les parents qui ont peur de laisser leur enfant. Voilà, donc il faut être subtil pour faire comprendre. Mais les parents comprennent. Et aussi parce que c'est les hôpitaux qui restent prescripteurs des séjours, qui proposent. Nous, on organise tout après, mais c'est vraiment les hôpitaux qui leur en parlent en général. Et dans ces cas-là, ils font une confiance absolue. Et puis, ils ont compris qu'ils ont besoin de se séparer un peu des enfants. Et puis, en même temps, il y a des enfants qui n'ont jamais eu de vacances. Donc, tout d'un coup, la maladie, c'est grâce à la maladie, j'ai pu partir en vacances. Et puis, les enfants, ils vont pleurer, peut-être les petits au début, même peut-être les plus grands. Mais très vite, ils vont être bien ici, ils vont être accueillis. Puis les parents, ils vont être rassurés. On met des photos sur le site internet, donc ils peuvent les voir tous les jours. Et tout de suite, ils ont... Et ça permet un souffle aussi aux parents. Ça permet un souffle aux frères et sœurs qui enfin vont retrouver une place. Parce que l'enfant malade prend aussi toute la place. C'est compliqué pour les frères et sœurs.
Donc vous faites du bien à tout le monde, si je comprends bien. À la fois aux enfants et à la famille.
C'est une grande cordée. Mm-hmm. C'est une expédition pour toute la famille. Oui.
Mais alors Christine Janin, qu'est-ce que vous leur proposez très concrètement, ces enfants donc atteints d'un cancer? Généralement, on les voit plutôt dans une chambre d'hôpital, on les voit plutôt fragiles. Vous allez les faire grimper là en face des montagnes que je vois depuis la fenêtre?
Alors, on va les accueillir tranquillement, on les équipe. Donc, ils sont tous beaux, des Gore-Tex, des fourrures polaires.
Vous fournissez tout, hein, tout. J'ai vu en bas,
les bonnets, les gants, sacs à dos. Comme ça, ils sont tous beaux, ils sont tous bien équipés avec du matériel de professionnel. Merci à tous nos fournisseurs qui nous offrent tout, bien évidemment. Et puis, on va y aller tranquillement. La première balade, ça va être une petite balade où on va respirer, on voit les montagnes, la balade du bois du boucher, on va aller vers le paradis, ça s'appelle le paradis. Et puis, on leur donne envie de marcher, on regarde. Puis après, on va aller un peu plus loin. Avec les enfants, il y a les chiens de traîneau, la balade avec les chiens de traîneau, ou alors on va aller au parc Merlet, donc ces balades où on voit tous ces animaux de la montagne, les bouquetins, les chamois, etc. Et puis après, on va plus loin. On va faire l'expédition de la journée. Donc on va aller faire une grande balade à la journée. Ça peut être l'Emprat Flégère, donc c'est déjà une bonne balade. Et puis, il y aura le parc aventure. Il y a l'escalade au milieu de tout ça, dans notre belle salle d'escalade, où là, c'est la confiance, les peurs, etc. C'est... Ah, j'ai pu aller tout là-haut.
Justement, on s'arrête un instant là-dessus. J'ai vu cette belle salle d'escalade avec niveau 5, 6. Ils débutent, c'est la première fois qu'ils grimpent.
Alors, c'est une salle qui est adaptée, 150 mètres carrés. On a une vingtaine, une trentaine de voies. On rivalise avec toutes les belles salles d'escalade en France, sauf que c'est une salle qui est faite pour les débutants. C'est-à-dire qu'il y a du 3, du 4, du 5. Et les enfants, du coup, peuvent facilement arriver au sommet et facilement faire des voies de plus en plus difficiles. Donc là, l'escalade, c'est vraiment un outil exceptionnel de confiance.
Alors, justement, voilà, qu'est-ce que vous voulez leur faire vivre à ces enfants? Parce qu'ils ne vont pas devenir des grands grimpeurs. Mais qu'est-ce que vous voulez leur permettre de vivre?
C'est tout d'un coup, c'est réaliser qu'ils ne sont pas que des enfants malades, qu'ils peuvent faire des choses que les autres n'ont pas fait, qu'ils n'auraient pas imaginé être capables de faire, qu'ils peuvent faire. Il y a la salle d'escalade, il y a le parc aventure, et le dernier jour, on leur fait faire un sommet qui peut être de 800 mètres de dénivelé pour des petits qui ont 7-8 ans, ou 400 mètres. On va adapter, bien évidemment. Ils vont tous réussir au sommet, et au sommet, c'est je suis capable, j'ai gagné, je suis un champion, je suis fier. Après, on leur remet un diplôme aussi à la fin du séjour.
Donc, c'est quoi, de nouveau, la confiance en eux, la confiance
en eux? La fierté. C'est j'ai gagné. Je suis fier.
C'est une bonne fierté.
J'ai réussi. Et puis après, à la fin, je dis, tu sais que tu es un champion. Et voilà, leur remettre en avant qu'ils ne sont pas que des enfants malades, qu'ils ont fait un truc que leur copain n'a pas fait. Donc on leur remet toujours des photos, 600 photos, j'ai toujours un photographe, pour pouvoir qu'ils puissent le montrer, être fiers. Et moi, j'ai des enfants qui vont m'en parler, mais 20 ans après. C'est une petite graine, mais qui va faire son chemin et qui va vraiment les accompagner, les libérer de cette image. En plus, on parle de la maladie. Avec qui vous pouvez parler quand vous avez 7 ans, 8 ans de la maladie d'un cancer, de chimio, de rayons, de choses très lourdes.
À d'autres enfants malades d'autres... autour de vous dans l'hôpital, et généralement.
Voilà. Mais non, parce qu'à l'hôpital, ils ont peur, ils ne se voient pas. Mais ici, quand ils sont entre eux, on fait un petit espace de parole. Bon, alors vous allez me parler de la maladie. Moi, je vous ai parlé de l'Everest, vous allez me parler du vôtre. Mmh. Et puis ça sort et c'est incroyable. Ils ont un moral d'acier, ils nous donnent des leçons de vie tous les jours, ces gamins. C'est aussi pour ça que j'ai continué, parce que, waouh, respect.
RCF. Christine Janin, ce sont les enfants, dites-vous, qui vous ont permis, plus tard, d'accueillir des femmes. Comme s'il vous avait fallu du temps pour pouvoir accueillir ici, dans cette maison, à chacun son Everest, des femmes malades du cancer également. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
Pour les 20 ans de l'association, donc au bout de 18 ans, je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que j'accompagnais tous les séjours, j'étais là tout le temps avec des bénévoles. Et il y a un moment, je me suis dit, mais je ne vais pas pouvoir continuer, parce que d'abord, j'étais fatiguée, parce que ça devenait lourd. J'avais toujours envie, mais en même temps, je sentais que j'allais m'épuiser. Et je me suis dit, il y a deux solutions. Je suis dans le cadre d'une PME qui grossit. Soit elle s'arrête, elle coule, soit elle développe. Donc là, on n'a pas le choix. Et puis, spontanément, est arrivée une femme, parce que j'embauchais sa fille pour faire le ménage, elle était étudiante. Donc j'avais toujours ce problème de séjour qui n'était même pas saisonnier. Avec cette femme arrive avec son bandana, Michel, de Chamonix. Elle me parle de son cancer du sein. Et là, ça a été bing, je sais, mais c'est... Voilà. On va ouvrir aux femmes atteintes de cancer du sein, parce que elles aussi, elles ont fait un Everest. C'était légitime par rapport aux enfants, que c'est les femmes et les enfants d'abord. Et qu'il y avait cette problématique de l'après-cancer. Il y a le cancer, mais il y a en plus tout ce problème du sein, de la féminité, de la sexualité et tout. Donc, ce n'est pas un petit cancer. Du coup, ça me permettait d'ouvrir la maison plus, de m'appuyer sur une équipe à plein temps, d'ouvrir ses séjours et de durer.
Mais c'est intéressant, Christine Janin, dans votre livre, vous écrivez cette phrase que j'ai trouvée vraiment très belle. Vous dites, si les femmes se sentent bousculées dans leur féminité, avec ce fameux cancer du sein, les enfants sont dépossédés de leur enfance. Donc, on voit bien qu'il y a deux problématiques complètement différentes. Hein. L'enfant est dépossédé de son enfance,
les enfants,
la femme de sa féminité.
Les enfants, vous les voyez ici, ça reste des enfants, hein, ça fait du bruit, ça bouge et tout. C'est pour ça aussi que je voulais un peu arrêter les enfants. Pas moi, hein, enfin, pas l'association, mais moi, être un petit peu moins présente. Mais ils ont une maturité. Ils le disent. Ils ont grandi. Donc, ils ont grandi trop vite. Ils en parlent. Donc, je les aide à mettre des mots là-dessus. Et les femmes, ben, c'est compliqué. Vous êtes ménopausée, vous êtes jeune, on vous enlève un sein, deux seins, les ovaires, vous avez peur, votre cœur il est transformé, vous avez mal, vous êtes fatiguée, enfin, c'est un choc.
Et ici, elles en parlent ?
Ah bah oui.
Et ça fait partie, je dirais, quelque part de la thérapie que vous apportez
ici. Dès qu'elles
ici.
Arrivent, les femmes, les enfants différemment, mais les femmes, je leur demande de se présenter, d'expliquer pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles attendent de la semaine et ce qu'elles veulent exprimer de leur... Mais tout de suite, ça sort. Elles ont un besoin à d'autres qui comprennent. Et enfin, le nombre qui m'ont dit « Enfin, je peux pleurer. Enfin, je peux ne pas être forte. » Les femmes, elles vont porter le mari, les enfants, le boulot.
Elles n'osaient pas pleurer devant le mari, les enfants. Et ici, on se lâche.
Ah bah oui. Et enfin, je leur dis « Mais allez-y, j'ai des poubelles, je ramasse tout. »
Tous les Kleenex.
Il n'est pas partenaire, mais il pourrait. Hein. J'en consomme des kilos. C'est la cellule psychologique, le Kleenex.
Et ça, c'est important d'arriver à lâcher. à dire, c'est énorme, à pleurer.
Ben oui, parce que ça allège. Quand vous avez un poids qui est là, des peurs, vous êtes le nœud au ventre et que beaucoup m'ont dit, mais j'aimerais, je cherche juste une chose, c'est voir vivre mes enfants. Elles sont jeunes. Mmh. Moi, j'ai des femmes de 30 ans, 40 ans. Donc, j'ai prié. Je ne pouvais pas accompagner tout le monde. Il faut savoir que les femmes en rémission d'un cancer du sein, enfin atteintes d'un cancer du sein, il y en a 53 000. C'est une femme sur 8.
53 000 par an. Hein.
Par an, en France. Mmh. Je ne pouvais malheureusement pas toutes les accompagner. Donc, 1000 excuses, 1000 pardons à celles que je ne peux pas accueillir ici parce que je suis obligée de dire non. Je prends les femmes de la région Rhône-Alpes, certains services à Paris, les plus jeunes jusqu'à 55 ans parce que, voilà, c'est celles dont, qui sont encore dans la vie active. Bien sûr que les autres en auraient besoin, mais c'est horrible. Là, c'est mon seul souci actuellement, c'est que je suis obligée de refuser beaucoup de femmes. Mais heureusement, j'ai fait des petits. Donc, il y a plein d'associations qui sont en train de se monter. Et il y a une prise en charge de l'après-cancer de plus en plus dans les services hospitaliers.
Mais Christine Janin, on associe bien sûr toujours le cancer avec la peur de la mort. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez ici, frontalement? Parce que c'est un sujet un peu tabou en France, on n'aime pas en parler de la mort. Ici, vous en parlez?
Moi, je fais à chaque séjour avec les femmes et les enfants aussi. On fait un espace de parole avec une oncopsychologue. Et chaque fois, quand même, le mot de la mort, la peur de la mort sort. Et toutes ces peurs de rechuter de la mort. Donc, qui dit rechute, dit mort. C'est important de le lâcher. Puis après, c'est aussi important de dire, voilà, ok, la mort, j'ai peur, oui, la mort, elle peut m'arriver à moi aussi demain. Qu'est-ce que j'en fais? Soit elle m'empêche de vivre, soit au contraire, je décide que je vais vivre tous les jours, comme dans le film, chaque jour comme le dernier jour du reste de ma vie. Mmh. Et j'adore ce titre, parce que c'est qu'est-ce que je fais de cette peur? Soit maintenant, ok, je l'affronte, je la regarde, et maintenant, au contraire, elle va me donner encore plus envie de vivre, et encore mieux.
Alors, vous avez utilisé le mot de rechute. Moi, j'entends forcément chute. Quand on fait de l'alpinisme, on a toujours peur de la chute, et la chute qui va être fatale. Là encore, vous voyez un parallèle entre ce que vous avez vécu, vous, grand alpiniste, confronté en permanence au risque de la chute, de la mort en montagne, et ce que vous partagez avec les femmes qui viennent ici dans l'association.
Alors, déjà deux choses, je n'ai pas fait l'Everest du premier coup, donc j'aime bien leur dire que quand on n'a pas réussi du premier coup, on peut réussir le deuxième coup, donc je suis assez contente de l'avoir fait en deux fois. Et la deuxième chose, je n'ai jamais eu peur des chutes. J'ai toujours fait tout pour ne pas chuter. Donc en même temps, il faut leur apprendre à dire, voilà, ça peut exister et tout. Maintenant, tu vas avancer dans ton chemin pour tout mettre en place. Et j'essaie de leur donner des outils. Donc elles partent avec un peu une boîte à outils de choses où elles vont être actrices de leur guérison. Il y a les médicaments, et ça j'y tiens à dire, voilà, il faut faire les traitements, etc. Les hôpitaux, je rends hommage à tous ces médecins qui donnent leur vie dans ces services parce que c'est quand même compliqué, il y en a beaucoup et c'est lourd d'annoncer toujours ces diagnostics à toutes ces femmes jeunes. Mais en même temps, après, il faut faire confiance. Et puis en même temps, trouver les outils qui vont nous permettre d'avancer. Il y a plein de choses. Ça peut être du yoga, de la méditation, du sport. Le sport, maintenant, on sait que ça aide à guérir. C'est aussi ce que j'essaie de leur faire faire. Ça peut être du yoga, du qigong. Voilà, c'est leur donner des outils pour, au lieu d'avoir peur, c'est dire, voilà, qu'est-ce que je fais pour moi aller bien. Et après, faire confiance à la vie.
Mais vous ne m'avez pas tout à fait répondu par rapport à la mort. Vous, quand vous étiez en montagne, vous y pensiez, vous aviez peur de la mort
non.
ou pas? Non.
Non, jamais peur de la mort. Jamais. J'ai jamais eu vraiment... J'ai eu des moments où c'était un peu chaud, un peu... Voilà, une condition un peu difficile. Mais non, j'ai jamais eu été en difficulté tellement aussi extrême que j'aurais pu mourir. Il y a une ou deux fois, dans des passages un peu délicats, bon, voilà, on dit, faut faire attention, comme au sommet de l'Everest, hein, dire attention, là, maintenant, tu fais gaffe.
Et quand vous avez fait le voyage au pôle Nord, donc là, à pied, à tirer votre chariot,
jours,
62
ouais.
jours, vous ne l'avez pas voulu à un moment, la mort?
Non, non, je n'ai pas voulu la mort, j'ai juste voulu qu'un ours vienne me bouffer, en me disant, là, ça s'arrête, j'en peux plus, c'est trop dur, mais qu'est-ce que je suis allée faire dans ce truc énorme?
C'est ce que vous racontez, quand même, à un moment, vous en aviez ras-le-bol, mais vous ne vouliez pas échouer.
Mais non.
Mais vous vouliez, vous préfériez mourir qu'échouer.
Ouais, on y pense deux secondes et demie, mais non, on a envie d'aller jusqu'au bout, mais on donne tout. Mais à un moment, on se dit, mais quand est-ce que ça va arrêter? Mais qu'est-ce que je suis venue? Et j'ai écrit dans mon journal de bord, c'est la première fois que j'écris, maintenant tu vas arrêter toutes ces bêtises, pour pas dire autre chose. Stop, quoi, c'est trop dur, tu stop. Et le stop est compliqué parce qu'on oublie la difficulté. Donc c'est pour ça que je l'avais écrit.
Christine Janin, vous avez écrit dans votre livre, page 116, « J'aime penser que quelqu'un veille sur moi, me guide. Je me suis souvent senti seul, et aujourd'hui encore. Alors cette certitude me donne une force incroyable lorsque la tentation de tout lâcher m'envahit. » quelqu'un veille sur moi. Qui veille sur vous?
Moi, j'aime bien dire qu'on a des anges ou des guides. J'en ai pas qu'un, j'en ai plein. Bien sûr, ceux qu'on aime qui sont partis. Mais en même temps, je suis sûre qu'il y a une puissance. Et je dis toujours à ces femmes, à ces enfants, demandez à l'univers, il va vous envoyer le message. Moi, c'est ma façon de regarder les choses. Et des fois, je suis là, j'ai dit, ah ok, merci. Merci du message. Il faut le lire, le message. Il faut l'entendre. Après, c'est peut-être subtil, c'est peut-être ma façon de penser, mais je crois je suis à peu près sûre que je n'ai pas fait tout ça sans être guidée. Je n'ai pas fait tout ça sans que ce soit une mission, qu'on m'a guidée. Il y a eu des moments difficiles, j'ai failli arrêter chaque fois. J'ai trouvé. Là, je suis à une phase aussi de ma vie où il faut que je trouve une nouvelle solution. Et ça y est, j'ai reçu quelques messages et je sais qu'il va falloir que je fasse une pause pour aller encore plus loin, pour ne pas arrêter.
Vous parlez de force, mais vous n'utilisez pas le mot de Dieu. C'est un mot que vous n'utilisez pas. Pour vous, c'est les messagers, les anges, ou c'est une force?
Dieu, c'est trop. Ça peut être Bouddha, ça peut être machin. Enfin, voilà, chacun met un peu ce qu'il a. Moi, j'aime bien dire que c'est des anges, des guides, qu'il y en a plusieurs. Dieu, il n'y en a qu'un. Donc, moi, il m'en faut plein.
Il en a fallu beaucoup pour vous protéger.
Il en a fait. Je suis à peu près sûre que j'ai été protégée. Je suis à peu près sûre que là-haut, ça bosse parce que il y a eu des moments vraiment de doute, il y a eu des moments vraiment de solitude, il y a eu vraiment des moments de désespérance aussi en faisant ça. Et il y a un moment, tac, et vous êtes guidé, vous y allez. Et donc, je crois, j'ai toujours su que quand c'est juste que ça doit se faire, ça va se faire. Et ça, c'est vraiment le message que je veux dire aux gens. Il faut oser, il faut y croire, mais il faut y croire avec le cœur. Envoyer le message et ça va venir. Il faut chercher un peu, c'est un peu du boulot aussi.
Christine Janin. Allez, on le dit, hein, puisque vous l'écrivez, vous venez de passer le cap des 60 ans.
Merci.
Comment vous voyez les 20 prochaines années?
Ça, c'était un peu dur à la fois. Je ne me sens pas 60, mais quand même, le corps, il a un peu mal partout. J'ai envie justement d'inventer un nouveau chapitre de ma vie. Le livre était aussi peut-être, pas par hasard, il est arrivé, on me l'a proposé, hein, je ne l'ai pas voulu vraiment. Je voudrais continuer l'association, faire qu'elle dure, bien sûr, différemment. Avec moi à un autre niveau, je ne veux plus être dans le management, je ne veux plus être sur le terrain comme ça. Être plus un guide pour ses enfants, pour ses femmes. Être plus là, toujours pareil, pour veiller à ce que mon enfant y grandisse, entre guillemets, hein, l'enfant. Toujours aussi pur et aussi authentique.
C'est votre bébé, quoi, cette association.
Ouais,
vraiment.
Mais j'ai mis toute mon âme et tout mon
cœur. C'est un grand bébé. Hein.
J'ai mis toute mon âme, tout mon cœur. Je ne voudrais pas qu'on me l'abîme. Je n'ai pas fait toujours bien. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai pu heurter. Oui, j'ai. Je suis quelqu'un où je fonce et je fais pas toujours, voilà, j'ai pas toujours pris des gants, mais j'ai toujours fait avec beaucoup d'honnêteté, j'allais dire, et de cœur et vraiment de sens dans ce que je faisais. J'ai beaucoup appris et je crois que quand on fait ce genre de choses, on donne mais on reçoit beaucoup. Il a fallu apprendre. Je crois que j'ai envie de continuer à apprendre, j'ai envie d'être plus dans le soin, plus détaché du terrain pour aller encore plus loin, j'allais dire, peut-être en spiritualité, peut-être en paix par rapport à moi et peut-être me poser un peu.
Mais je vous le souhaite, Christine Janin. En tous les cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici dans ce beau chalet de l'association À Chacun Son Everest. Je renvoie sincèrement à ce livre qui vient de paraître aux éditions Glénat, Christine Janin, Dame de Pique et Femme de Cœur, que vous avez réalisé en collaboration avec Anna Véronique Elbaz. Et puis, on a vraiment de la chance. Quel beau soleil aujourd'hui sur ce massif montagneux. Et je sais que certaines personnes qui sont actuellement dans la maison en profitent.
Oui, ils sont en train de grimper, c'est pas de la chance et que vous le méritez bien.
Merci beaucoup.
Merci.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.
Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Les chroniqueurs de Radio Présence. chaque matin au service de votre quotidien.
Toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin, est-ce que c'est encore d'actualité?
Les chemins de Compostelle ont été mis au service de la construction de la paix entre les hommes.
Cet internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui chaque année nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Nous ne pouvons pas savoir ce que l'humanité va devenir au cours des prochains millénaires. En revanche, il s'agit de découvrir le destin des systèmes planétaires.
On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Flashback.
Flashback.
Flashback, une chronique musicale de Michel Brun.
Je m'aperçois que je vous parle de Jean-Sébastien Bach depuis plusieurs semaines et que je ne vous ai même pas raconté sa vie. Nous connaissons peu de choses sur l'homme qu'il était. Par contre, nous avons suffisamment d'éléments biographiques pour retracer le cours de son existence. Il est né en 1685 de l'union d'Ambrosius et d'Elisabeth Bach et il eut 7 frères et sœurs, dont, comme toujours en ce temps-là, plusieurs moururent en bas âge. Son père était Stadtpfeifer, c'est-à-dire sonneur municipal. Il était donc chargé, entre autres, de jouer des sonneries 2 fois par jour à 10h et 17h du haut d'un balcon de l'hôtel de ville d'Eisenach. Ambrosius vit rapidement que Jean-Sébastien était très doué pour la musique et lui apprit lui-même le violon dès l'âge de 5 ans. Et sa jolie voix de soprano permit à Jean-Sébastien de participer au chœur des cantates du dimanche. Malheureusement, ses deux parents décédèrent vers ses 10 ans et le jeune orphelin dut rejoindre son frère aîné, Johann Christoph, organiste à Ohrdruf. Celui-ci l'initia aux instruments à clavier, en particulier à l'orgue, et avec les leçons de violon de son père, c'est là tout l'enseignement musical que reçut Jean-Sébastien. Le reste, il l'acquiert par l'observation des musiciens qu'il rencontre ou auxquels il rend visite, comme Buxtehude à Lübeck. Il se forme également grâce à une véritable boulimie de lecture de partitions. Son fils Carl-Philippe Emmanuel raconte que, comme son frère lui interdisait l'accès à sa bibliothèque musicale, Jean-Sébastien réussit, grâce à ses petites mains, à passer les feuillets d'une partition, après les avoir roulés, par les trous du grillage de l'armoire où ils étaient sous clé. Carl-Philippe Emmanuel conclut, il les recopia à la lueur de la lune, car il ne disposait même pas d'une chandelle. Il semble bien, malheureusement, que son frère le surprit et supprima la copie si laborieusement effectuée. Jean-Sébastien ne semble pas lui en avoir voulu, puisqu'il lui dédiera 5 ans plus tard une de ses premières œuvres pour orgue, le Capriccio en mi. Lorsque la famille de son frère s'agrandit, Jean-Sébastien doit quitter son toit. Il devient violoniste à Weimar, ensuite organiste à Arnstadt, puis à Mühlhausen, où il rencontre Maria Barbara, sa lointaine cousine, qu'il épouse à 22 ans dans la charmante petite église de campagne de Dornheim. Leur union durera 13 ans et ils eurent 7 enfants. Les postes se succèdent, Weimar à nouveau, puis Köthen, ville d'obédience calviniste, donc où on ne pratique pas de musique à l'église. Jean-Sébastien y composera une bonne part de sa musique instrumentale pour l'excellent orchestre de la cour. En 1720, décède sa première femme, alors qu'il est absent. 17 mois plus tard, il épouse Anna Magdalena, avec qui il aura 13 enfants. À partir de 1723, Bach occupera le poste écrasant de cantor à Leipzig. C'est là qu'il décédera, aveugle, à 65 ans, en 1750.
Radio Présence
à Montauban 93.3.
Présence à Montauban, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
La fin d'une ère à Hong Kong. Les États-Unis suppriment le statut spécial de l'ancienne colonie britannique et annoncent